Le retour au pays de l'enfant prodigue, le ténor Abdellah Lasri chante sur les scènes des plus grands opéras d'Europe. Pour la première fois, il se produit dans son pays, le Maroc, et dans sa ville natale de Rabat. Il nous a quittés il y a moins d'un an, reste son œuvre prolifique, 70 ans, à fixer les visages, les paysages, mais aussi bien souvent les chevaux, les fantasias avec ses pinceaux. Exposition Hassan El Glaoui actuellement au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Le témoignage de sa fille est commissaire de l'exposition Touria El Glaoui. C'est l'une des plus grandes foires d'art contemporain au monde, Art Paris, Art Fair, jusqu'à ce soir dans la capitale française. La photographe marocaine Houda Kabbaj est de la partie, nous serons aussi avec elle. Enfin, qui dit art, qui dit Maroc, qui dit événement, dit aussi à un moment ou à un autre Mehdi Kotbi, le président de la Fondation Nationale des Musées, est également à Paris avec une actualité chargée. Aurélien Devernoy est allé à sa rencontre, c'est avec eux que Bain de Culture commence ce dimanche. Une fenêtre sur la vie culturelle au Maroc et dans le monde pendant une heure sur Média.
Bain de Culture, l'Expo.
Mehdi Kotbi, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une séquence particulière pour vous à Paris en ce printemps 2019 puisque vous êtes exposé à deux endroits simultanément et quasiment sur les endroits les plus prestigieux, sur la plus belle avenue du monde, au Grand Palais et Art Curial qui est au rond-point des Champs-Élysées. Deux expositions un peu différentes. Art Curial, c'est une rétrospective de votre carrière et puis la Paris Art Fair, c'est aux côtés d'artistes plus ou moins jeunes, marocains également, mais pour faire découvrir l'art marocain aux acheteurs internationaux. Comment vous vivez ce moment-là? C'est un beau moment, d'autant plus que ça faisait quelques années que vous n'aviez pas exposé à Paris.
Écoutez, d'abord, je vais vous dire quelque chose toujours émouvant d'en venir à Paris, de montrer mon travail, comme vous l'avez dit, au cœur de Paris, au cœur des Champs-Élysées, au cœur de ce lieu qui est mythique, parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que quasiment ma première vente, je l'ai faite à Art Curial, alors que Art Curial se trouvait de l'autre côté des Champs-Élysées, avant que les Dassault l'achètent et qu'ils offrent l'espace de leur hôtel particulier à Art Curial. Donc ma première grosse vente a été faite lors d'une exposition à Art Curial. Donc Art Curial est un lieu qui est une très grande salle de vente, bien évidemment, internationale, reconnue, mais en même temps un lieu d'exposition. Et ils ont voulu essayer, en résonance aussi, avec le Grand Palais, avec Paris Art Fair, c'est un peu ça aussi l'idée, pour permettre aux visiteurs de Paris Art Fair au Grand Palais de continuer leur visite.
Alors justement, on voit vos œuvres, là, c'est toujours sur le thème de la calligraphie. Vous l'expliquez d'ailleurs très bien dans le petit texte qui présente cette exposition. C'est un lien avec vos parents, hein, cette calligraphie qu'on retrouve sur vos tableaux.
Écoutez, le lien surtout avec mes origines. Quand je suis arrivé ici, dans ce pays, j'avais une envie incroyablement folle d'oublier, de totalement biffer, effacer le souvenir de mon enfance et de mes origines. Parce que je n'avais pas connu que des beaux moments. Et j'arrive ici, en France, et d'un coup, toutes les portes me sont ouvertes. On me prend comme je suis. On n'a plus besoin de savoir que vous êtes issu de telle ou telle famille. J'avais réellement oublié l'usage de l'arabe. Et quand j'avais eu mon diplôme, j'étais le plus jeune candidat en France à l'avoir eu à l'époque, mon professeur, qui était un homme assez exceptionnel, il jouait un peu sorte de père pour moi, le père que je n'avais pas eu réellement. Et il me dit, il faut que tu sois toi-même. Moi-même, c'est quoi? C'est cette écriture arabe. Je précise, pas la calligraphie, car la calligraphie respecte d'abord une signification et en même temps des règles calligraphiques. Tandis que moi, ce n'est pas de la calligraphie, c'est une écriture, c'est une peinture, c'est une gestualité. Et c'est comme ça que je peux dire que peut-être c'est cette écriture gestuelle, spontanée, qui a fasciné les écrivains, qui a fasciné les poètes, puisque, comme vous pouvez le constater, les plus grands poètes que j'ai eu la chance de croiser ont écrit sur mon travail. C'est fabuleux.
Alors justement, en effet, il y a plusieurs eaux-fortes, hein, on appelle ça comme ça, qui sont présentées à Art Curial, avec Léopold Sédar Senghor, avec Yves Bonnefoy, avec Aimé Césaire, en effet des grands noms de la poésie. C'est beau aussi cette résonance entre le français sur la page de gauche, le poème, et puis l'arabe, vos eaux-fortes sur la page de droite.
Écoutez, Senghor me disait, quand il avait vu mon travail, « Votre travail est comme un champ déjà labouré, on sème la graine et les mots ». Arrive. C'est cela qui fait que toute mon existence a été comme un champ comme ça fleurit, avec des couleurs, avec le bonheur.
Alors vous fêtez justement vos 50 ans de carrière, ça passe vite?
Écoutez, ça passe tellement vite parce que j'ai l'impression que je suis tout à fait au début de mes 15 ans, quand j'avais débuté la peinture. Et pour moi, ça n'a jamais changé. Je suis toujours le même, j'ai cet étonnement de l'enfance.
Le Maroc est en train de développer un double système, c'est-à-dire des musées publics, mais aussi des fondations privées. Ça aussi, ça aide, ça participe du développement du monde de l'art dans le royaume.
C'est par les expositions. Aujourd'hui, le Maroc devient un véritable hub pour la peinture, pour l'art. Vous avez aujourd'hui des maisons de vente qui s'installent, vous avez des galeries qui se développent, vous voyez. Et donc, de ce fait, et aussi la possibilité que Sa Majesté a donnée aux Marocains d'avoir un vrai musée, qui est aujourd'hui le musée le plus important du continent, et même, je dirais même, un des plus importants dans le monde arabe. On n'a pas les mêmes moyens que les pays du Golfe, mais nous avons des idées et nous avons une passion. Vous savez, d'exposer, par exemple, aujourd'hui, au musée Mohamed VI, rendre hommage à un peintre, parce que nous avons pris comme politique de rendre hommage aux artistes marocains d'abord, et en même temps de les ouvrir sur l'art aussi qui se passe et sur les grands maîtres, puisque nous avons eu l'année dernière un prêt du Centre Pompidou où nous avions eu Miro, Matisse, Dali, Picasso. C'était assez impressionnant. Auparavant, nous avons eu une rétrospective Picasso et dans deux ou trois jours, nous aurons une grande exposition qui va être historique. C'est l'exposition, l'arrivée des impressionnistes, des Renoir, des Monet, des Manet, un Van Gogh, un Delacroix. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Marocains peuvent se targuer d'avoir des musées qui leur ouvrent le regard et l'esprit, qui les nourrit de ces couleurs, qui les nourrit de cette lumière qui est celle de la culture et qui permet aux gens de s'ouvrir aussi sur les cultures des autres.
Merci beaucoup, Mehdi Kotbi. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Voilà, Mehdi Kotbi à Paris, au micro d'Aurélien Devernois, l'artiste présent donc actuellement en France à travers ces deux événements. Mehdi Kotbi qui se trouve aussi être le président de la Fondation Nationale des Musées au Maroc. Il faisait allusion il y a quelques instants à l'hommage rendu actuellement au musée Mohamed VI de Rabat à un grand peintre. Ce peintre, c'est Hassan El Glaoui. On en parle dans moins de 3 minutes.
Midi 1, David Labo.
C'est tout.
Juliette Armanet dans Ben Culture. Nous sommes à Rabat maintenant, le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Trois grandes expositions actuellement. Un panorama des créations contemporaines en Afrique, Lumière d'Afrique, Les Maîtres de l'impressionnisme, l'inauguration dans deux jours maintenant. Et puis, cet hommage rendu à l'un des plus grands peintres marocains, Hassan El Glaoui. Camille Marigot.
Évoquer la famille El Glaoui, c'est ouvrir une page de l'histoire du Maroc à travers trois générations. Hassan El Glaoui est le fils de l'un des pachas les plus célèbres du royaume, Tama El Glaoui, le pacha de Marrakech, surnommé la Panthère Noire. Elle s'est placée du mauvais côté de l'histoire. Son pas de deux avec les autorités françaises du temps du protectorat, sa trahison envers le sultan, puis sa soumission. Son fils, Hassan, lui, se gardera bien de se mêler de politique. Sa passion, dès son plus jeune âge, c'est la peinture. L'école des Beaux-Arts de Paris dans les années 50. Pendant 70 ans, Hassan El Glaoui va raconter à travers ses toiles son pays et ses traditions. New York, Londres, Paris, Dakar, Bagdad, il a exposé dans le monde entier. Le musée Mohamed VI lui rend hommage en ce moment. Et la commissaire de l'exposition n'est autre que sa fille, Touria El Glaoui, la créatrice des foires 1.54 références de l'art contemporain africain et développée à Londres, New York et maintenant Marrakech. Touria El Glaoui et l'invité de Bain de Culture.
Bonjour Touria El Glaoui.
Bonjour.
Cette exposition retraçant le parcours de votre père au musée Mohamed VI, événement marquant, 70 ans de carrière. Qu'avez-vous ressenti cette semaine au moment du vernissage?
Pendant toutes les préparations, je veux dire pour nous, vous savez que mon papa est décédé que l'été dernier, donc ça a été un vrai moment de joie de l'organiser, mais aussi très émotionnel pour moi et surtout pour ma famille qui suivait ce qu'on faisait, car c'était la première exposition muséale après après son décès, mais on a été ravis du résultat final et de voir, en fait, elle a été dévoilée, en fait. C'était assez joli et ça lui rendait bien hommage, donc le sentiment était plutôt joyeux.
Une centaine d'œuvres sont présentées au public. Elles retracent la carrière de l'artiste des années 40 jusqu'à ces dernières années. Comment s'est faite la sélection? Je crois que beaucoup de toiles ont été peu montrées de son vivant.
Oui, on a essayé de choisir un parcours, en fait, beaucoup sur la thématique, mais couvert les 7 décennies de son travail, pas forcément par ordre chronologique, mais plutôt par thème. Et en fait, on a essayé de montrer deux aspects, sa vie privée, et donc ses peintures qui étaient le moins montrées. Mais mon papa disait souvent que si les gens pensaient qu'il était un peintre de chevaux, qu'il ne connaissait pas son travail, lui apportait beaucoup de plaisir à faire des portraits, à faire des natures mortes, à peindre des scènes intimistes de sa vie, on va dire privée. Et on voulait montrer ce côté-là, donc la première salle, on va dire, de l'exposition, et surtout sur le début de sa carrière, donc ses œuvres de jeunesse, où il n'avait pas forcément d'éducation professionnelle sur la peinture, qui montre un peu son talent de base avant de partir étudier à Paris. Puis donc c'est souvent des gens de sa famille, donc c'était ses sœurs, sa mère qui l'a peint, souvent le jardinier dans le jardin ou les premiers chevaux où il avait accès aux étables de son père. Et puis, bien évidemment, on a essayé de créer une espèce de boîte de souvenirs qui était entourée de tous les portraits de famille qu'il a fait de ses proches, donc de sa femme qu'il a beaucoup peint, de nous, de ses filles, même de différents animaux qui faisaient partie de notre vie de tous les jours. Donc on a un de nos chiens favoris qui nous a vus tous naître, qui fait partie de ce tableau de famille.
Votre père, vous parliez des œuvres qu'il a fait durant sa jeunesse. Il a commencé à peindre très très jeune. Il peignait au départ, je crois, en cachette. Ses parents avaient d'autres ambitions pour lui, pas celle en tout cas d'avoir un fils artiste. Et c'est presque comme une légende, c'est la visite de personnalités illustres au domicile familial qui vont changer son destin.
Oui, effectivement, je dis toujours qu'il a eu quand même une enfance assez privilégiée et grâce à ça, il a eu la possibilité, malgré que son père était assez strict et voulant toute notre profession pour lui, côtoyer des gens très créatifs et puis des gens aussi importants mais qui aimaient beaucoup la peinture. Donc la légende dans ma famille, mais apparemment elle s'est avérée vraie, donc je ne sais plus si c'est une légende, c'est que c'est Winston Churchill qui aurait convaincu mon grand-père de le laisser aller peindre à Paris. Il avait vu quelques peintures de mon père de l'époque dans le bureau de mon grand-père et qu'il lui aurait dit qu'il avait beaucoup de talent et qu'il devrait continuer. Et c'est grâce à ça que mon père, en 1952, a pu aller à Paris, d'abord étudier à l'atelier de dessin de Souverby aux Beaux-Arts. Et puis après, il a eu sa grande peintre de peinture avec qui il a eu une relation de plus de 10 ans, qui s'appelait Émilie Charmy, qui était juste post-impressionniste, qui était vraiment appréciée des plus grands artistes de son temps, mais qui lui a appris tout sur la peinture, sur l'huile, sur les portraits, sur tout ce qu'il aimait de la peinture aujourd'hui. Ça a été vraiment sa mère spirituelle.
L'exposition s'appelle « Le sel de ma terre ». On connaît l'attachement de votre père à la culture marocaine, à ses traditions, aux campagnes. C'est tout ça le sel de la terre d'Hassan El Glaoui?
Oui, tout à fait. Je sais que c'est une expression qui est d'origine biblique, mais en fait, il y a deux petits clins d'œil. Il y a justement ça, c'est ce côté qu'il a toujours peint, des très belles références du Maroc, comme des beaux souvenirs. Il a fait beaucoup de peintures cérémoniales, comme les sorties du roi, mais aussi beaucoup folkloriques, comme les fantasias. Et je pense que ça, c'est vraiment des valeurs pour le Maroc, pour maintenant, mais aussi pour plus tard, et des références, surtout pour la nouvelle génération, de peut-être traditions qui existeront ou qui n'existeront plus dans le futur. Et puis, pour le petit clin d'œil à notre famille, du côté de la famille de mon père, on est connu d'avoir fait la fortune, soi-disant, de mon grand-père sur le sel et le commerce du sel. Donc, c'était un petit peu, parce qu'on mange beaucoup de sel en plus dans la famille, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais il s'avère que le mot sel est très apprécié de notre famille. Mais c'était plus pour le côté, justement, et ce qu'il représente pour le Maroc, en termes de toutes ces peintures qu'il a fait, qui sont vraiment des vrais clins d'œil aux traditions marocaines, au folklore marocain. Et on trouvait que c'était un titre que, pour moi, s'appliquait très bien à cette exposition.
L'étoile de votre père, d'Hassan El Glaoui, comme pour fixer des traditions, effectivement, le travail des chants, des scènes folkloriques, les fameuses fantasias, c'est important que l'on perpétue cette mémoire à vos yeux?
D'abord, c'est des très belles traditions. Elles sont esthétiquement extrêmement jolies. Les plus belles fantasias, quand on a la chance de les avoir comme spectacle, c'est une chose assez inouïe. C'est devenu plus populaire et plus on va dire, moins fréquent. C'est-à-dire que c'est plus dans des moments très spécifiques qu'il y a toutes ces parades de Fantasia. Mais je sais que, petite, on a été traînés dans différentes villes du Maroc pour aller voir ces Fantasia avec mon père. Et c'est quelque chose auquel il était très attaché. Et je pense que, je ne sais pas, c'est une belle image folklorique du Maroc. Je sais qu'il y en a encore. Je sais qu'il y en a encore pour certaines fêtes marocaines. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans une, mais mon père appréciait beaucoup déjà le cheval en lui-même. Il a été très marqué qu'à l'âge de 13 ans, son cheval aussi soit envoyé à la Fantasia, parce que mon grand-père s'inquiétait pour ses études, etc. Et a décidé d'envoyer son cheval à la Fantasia, parce que mon père ne se concentrait pas du tout à ses devoirs, etc. Et donc, je pense qu'il y a un côté aussi qui l'a marqué personnel. Puis les chevaux des Fantasia, on sait, sont tout de suite, à cause de ces courses répétitives, sont souvent abîmés, un peu comme le polo. Ils n'ont pas une longévité très longue. Apparemment, ils ont une vie assez courte au niveau de leur carrière, on va dire, dans ce métier-là.
On l'a dit, votre père a beaucoup peint son entourage, des portraits, sa propre famille. Quel souvenir avez-vous de tout cela, vous, enfant ? Il avait fixé vos visages dans sa mémoire et il peignait comme cela, ou il vous demandait parfois de poser ?
Ah non, on a toujours posé pour lui. Donc, petite fille, c'était pas forcément la chose la plus drôle, parce qu'on n'a pas vraiment la patience de rester assise pendant des heures, mais il l'a fait régulièrement. Donc, on a beaucoup de peintures de nous, parce qu'on était un peu forcés de le faire aussi. S'il nous trouvait assez jolis ou bien habillés, il nous disait, allez, venez faire un portrait. Et souvent, on n'avait bien évidemment pas la patience, donc il prenait des photos et puis terminait le portrait quand il avait l'occasion. Mais il aimait beaucoup nous peindre. Il a beaucoup aimé certaines plus que d'autres. Par exemple, j'ai ma sœur Islane qui a eu la chance de peindre beaucoup plus. Donc, elle était aussi de caractère beaucoup plus calme et patiente. Mais elle était blonde comme ma maman. Donc, il y a peut-être un côté muse qui préférait chez ma maman et une de mes sœurs. Mais on a tout eu le droit à être peinte. Et souvent, et la majorité du temps, je veux dire, en faisant des vraies séances de pose dans son atelier qui a toujours été au milieu de notre maison.
Voilà, le sel de ma terre, cette exposition qui retrace l'ensemble de l'œuvre de Hassan El Glaoui, c'est visible jusqu'au 30 août au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Merci beaucoup, Touria El Glaoui.
Merci beaucoup.
Bonne culture, la suite dans la deuxième partie, le travail de la photographe Houda Kabbaj présenté à Art Paris Art Fair, et puis le ténor Abdellah Lasri en concert avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc pour la Tosca de Puccini. En attendant, c'était il y a 25 ans, le 5 avril 1994, le monde apprenait la disparition de Kurt Cobain. Fondateur et chanteur du groupe Nirvana, Kurt Cobain a brûlé sa vie plus vite qu'il n'explosait ses guitares. Naissant en 67 dans l'état de Washington, il a 20 ans quand il crée Nirvana, 24 quand il devient une star. L'explosion avec Nevermind, 30 millions d'exemplaires, l'un des albums les plus vendus au monde. Le groupe devient un phénomène planétaire, l'incarnation de la mode grunge. Une ascension fulgurante stoppée brutalement. Le 5 avril 1994, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête. Il avait 27 ans. Un document ce vendredi. Nous sommes en 91, Nevermind vient de sortir. Un jeune journaliste interroge Kurt Cobain et il rame un peu.
Dans Smell Like Teen Spirit, vous semblez vous plaindre de l'apathie de notre génération, c'est bien ça ?
Tu l'interprètes comme tu veux, libre à toi. C'est à toi de déchiffrer.
Et vous partagez cette désinvolture ?
De quoi ? Être apathique ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on dort trop. Le punk rock, ça devrait être la liberté. Assumer tous les choix, jouer ce que tu veux, et même jouer mal si tu en as envie. tant que c'est bon et tant que tu y mets tes tripes.
Combien de guitares avez-vous cassées depuis votre premier concert ?
Ça n'a rien à voir avec la musique. Ce n'est pas nécessairement violent, c'est juste pour le plaisir, du plaisir pur.
Qu'est-ce que ça vous procure d'exploser des guitares sur scène ?
Satisfaction, jouissance, pas besoin de rappel. Ouais, c'est ça. C'est une bonne excuse pour ne pas rejouer.
Média, bain de culture avec David Labo.
Jane Birkin, ses petits riens, extraits de son dernier album Birkin Gainsbourg, le symphonique, enregistré avec l'orchestre symphonique de la radio polonaise.
Bain de culture, le concert.
La voix du ténor Abdellah Lasri. Abdellah Lasri en concert dans quelques jours au Maroc. Nous sommes en ligne avec lui. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 37 ans, vous êtes né à Rabat. Comme d'autres artistes, vous êtes passé par la chorale de la capitale, dirigée par Louis Perraudin, puis le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Vous sortez major de votre promotion. Vous avez commencé votre carrière en Allemagne, où vous résidez aujourd'hui. Vous êtes monté sur les plus grandes scènes en Allemagne, donc, mais aussi en Italie, en France, l'Opéra de Berlin, celui de Paris. Et pour la première fois, vous allez chanter un grand rôle au Maroc et dans votre ville natale. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?
Ah, cela représente beaucoup. Déjà parce que ma famille va pouvoir enfin me voir sur scène. Et je ne sais pas s'ils vont comprendre, parce qu'ils sont vraiment, c'est la classe moyenne du Maroc. Et ce n'est pas une chose mauvaise ou bonne, en fait. C'est juste, mais c'est génial de voir mes parents dans le public. Je sais qu'ils sont fiers, et puis là, ils vont voir. Ils vont comprendre pourquoi ils sont fiers, j'espère, s'ils chantent bien, bien sûr.
Pourquoi vous dites, je ne sais pas s'ils vont comprendre ? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, peut-être, de l'art lyrique ou...
Oui, parce que l'art lyrique, quand même, n'est pas notre culture au Maroc. C'est pas spécial, c'est quelque chose de normal.
Vous allez vous produire avec l'Orchestre Philharmonique du Maroc, l'OPM, la Tosca de Puccini, dirigée par Olivier Holt. Vous jouez l'un des deux rôles principaux, celui de Mario Cavaradossi. Parmi vos illustres prédécesseurs dans ce rôle, il y a eu Luciano Pavarotti. Parlez-nous de ce personnage que vous interprétez dans la Tosca.
Déjà, il faut parler de Tosca, l'opéra, de tout l'opéra, et du côté nationaliste, au fait, que ça représente, de Puccini, au fait, qui a déjà vu les problèmes du fascisme, même si le fascisme a commencé que 30 ans après. Mais,
l'opéra en lui-même est sorti en 1900, tout rond.
Exactement. Exactement. Et c'est vraiment, il y a un élan, on appelle, c'est le style vraiment, c'est le vérisme. Et même si Puccini, on dit que c'est un compositeur vériste, Tosca, c'est son premier opéra vériste. Ça veut dire que ça parle vraiment des problèmes actuels, des problèmes des gens, des problèmes, je sais pas, d'un village, ou des problèmes d'une ville, des problèmes des gens de l'époque. Et bien sûr, il y a une histoire d'amour. Il y a toujours une histoire d'amour, comme dans les films aussi. Mais il y a aussi une histoire de patrie ou une histoire de résistance, une histoire de révolution. Ce mélange-là fait vraiment un opéra totalement explosif. Et lui, donc, Cavaradossi, il se retrouve au milieu de tout ça. Déjà, la première scène est vraiment très intéressante parce qu'il cache un fugitif. Et puis, il y a Tosca qui vient, qui ne veut pas la mêler. Ça fait vraiment. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup aujourd'hui. Je sors d'une répète où on a discuté beaucoup de est-ce que je dois avoir la crainte, avoir une espèce de préoccupation parce que ce fugitif est caché, ou est-ce que je dois juste me donner à Tosca et puis l'aimer et puis laisser cette histoire de côté. Voilà. Ce personnage est comme ça. Amour et nationalisme, et ça fait vraiment un personnage et un opéra explosif.
Adela Lasri, vous êtes en pleine répétition, vous l'avez dit actuellement avec l'OPM. Nous-mêmes, on a eu du mal à se caler un rendez-vous. Quand on a commencé l'entretien juste auparavant, vous m'avez dit que vous aviez la voix un petit peu fatiguée. J'imagine que c'est de façon un métier exigeant. Ça nécessite une véritable assaise parce que vous exploitez votre corps. Vous sollicitez vos cordes vocales comme cela en permanence.
Ah oui, il faut un vrai régime de sportif, un régime alimentaire, et puis il faut une vie saine, il faut jouer avec ça. Parfois c'est même frustrant parce que après la répétition ou deux répétitions par jour, on a envie de sortir, de boire, de parler avec les gens, mais en fait on peut pas parce que on doit un peu garder un peu de la voix pour la répétition de 10 heures le lendemain. Et puis, il faut toujours garder un peu de ligne, parce que les tons ont changé. Et vous avez parlé de Pavarotti. Lui, il a fait une carrière dans les années 70. Il a pu la faire. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il ferait la même carrière.
Parce que la corpulence qu'il avait aujourd'hui, l'handicap après.
Exactement. Exactement. Alors, la voix est très, très saine. Il vient d'une longue tradition. Son père, apparemment, chantait. Enfin, il y a même des extraits sur Internet qu'on peut trouver de son père, en fait, qui chante un peu comme lui. Donc, on voit le côté familial ou le côté tradition, comme on aime appeler ça, le côté corpulence. Les tons ont changé. Et ce n'est pas si mal que ça, en fait. Les tons changent, on joue différemment, on chante différemment maintenant qu'il y a 30 ans ou il y a 100 ans.
Pour en revenir à votre parcours que j'ai retracé à grands traits comme cela, le fait de devenir un ténor, le fait de devenir un chanteur d'art lyrique, c'est une orientation qui est peu commune, c'est un métier qui est singulier. Ça vous a pris quand ?
Avant d'avoir la tessiture, je crois qu'il y a la passion. Et c'est la passion ou le fait de... Quand on écoute la musique, elle sonne différemment, bien sûr. Tout le monde est prédestiné. Moi, je crois ça. Tout le monde est prédestiné à quelque chose. Et moi, j'avais sûrement la musique sonnait différemment dans ma tête. Je voulais faire la musique, mais au Maroc, c'est un peu difficile. Et puis, dans ma famille, c'était un peu difficile. J'avais pas grand monde pour m'aider. Et puis, au moment d'avoir le bac, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais vraiment faire la musique. J'avais aucune ouverture. Et j'ai décidé juste d'arrêter et puis de commencer avec la guitare et puis commencer avec la musique. Et j'ai eu beaucoup de chance de rentrer dans des chorales, notamment la chorale de M. Perronin dont vous avez parlé. Pour faire un instrument, c'était vraiment trop tard. Alors que pour faire du chant, ça, c'était vraiment la seule possibilité. Et j'avais aimé chanter et faire la musique avec ma voix, avec mon corps. Donc je me trouvais un peu à la même ligne de départ que les autres chanteurs. Et voilà, ça m'a donné une chance justement d'arriver là où je suis.
L'art lyrique, Abdellah Lasri, a un public, des habitués, des initiés. On l'a dit, que pourriez-vous dire à quelqu'un qui n'est jamais allé voir un opéra et qui a peut-être peur de rester à côté pour l'inciter à venir, pour lui donner envie?
Justement... j'ai une explication parce que je connais beaucoup de gens qui ont peur ou qui trouvent ça inintéressant et je peux comprendre pourquoi, parce que malheureusement on doit être un tout petit peu initié. Donc le premier élément vraiment que je dis aux gens, allez sur internet et lisez l'histoire. Ce n'est pas comme un film, on ne va pas découvrir des choses. Il y a quand même des codes qu'on doit malheureusement connaître. Donc quand on connaît l'histoire, on suit beaucoup mieux et c'est très bien. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, quand on écoute la chose une fois, deux fois, trois fois, on connaît des endroits qui sont un peu difficiles. C'est un peu comme le cirque. Quand quelqu'un se jette dans l'air et puis l'autre doit attraper sa main, le public voilà, ne peut plus respirer. Il y a une espèce de d'excitation et puis on applaudit bien sûr tout de suite. Et c'est exactement la même chose. Quand un chanteur a un cantrut qui est la note un peu la plus aiguë dans ses rôles standards ou dans ses rôles italiens, dans ses rôles de Puccini, quand ça arrive, avant d'arriver, bien sûr, Puccini a mis une musique tellement excitante, tellement envoûtante, qui vous emmène à ce point-là, on reconnaît cet endroit. Et un habitué, il va dire, oh, est-ce qu'il va arriver ou est-ce qu'il ne va pas arriver? Et puis, dès qu'on chante cette note très aiguë, eh ben, ça donne la même excitation et satisfaction au public.
Il y a une même tension quand on attend cette note difficile, va-t-il y arriver, ce contrut, que si c'était une épreuve sportive? Est-ce qu'il va arriver à franchir la haie? Est-ce qu'il va arriver à atteindre la note?
Exactement.
Vous êtes dans la dernière ligne droite, les répétitions s'enchaînent. La semaine prochaine, le contrut, vous allez l'atteindre?
Dans ce rôle-là, il n'y a pas de contre-rute.
Ah.
Il y a des contre-scies qui sont... on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais le contre-scie est beaucoup plus difficile que le contre-rute, en fait.
Donc ça vaut le coup quand même de venir vous voir.
Ah oui. Ah mais bien sûr. Dans cet opéra, il y a d'autres éléments qui sont plus excitants. Il faudrait bien sûr venir voir, mais il faudrait absolument lire l'histoire avant de venir. Voilà.
C'est noté. La Tosca présentée dans les prochains jours sur la scène du Théâtre National Mohamed V de Rabat, samedi prochain, et puis le lundi qui suit le 15 avril et le jeudi 18 avril avec vous, Abdellah Lasri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie.
Voilà, on quitte Rabat dans un instant. Retour à Paris, on va parler photographie. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? Billie Eilish sur Média. Nous étions à Paris au début de l'émission avec Mehdi Kotbi. Art Paris, Art Fair, cet événement jusqu'à ce soir, des jeunes artistes marocains y participent, représentés par la galerie d'art casablancaise So Art Gallery. Parmi eux, la photographe Houda Kabbaj. Aurélien Devernois l'a rencontré pour Bain de Culture.
Bonjour Houda Kabbaj.
Bonjour.
Alors vous exposez 3 œuvres à la Foire d'Art de Paris. Parlez-nous justement des œuvres que vous exposez. C'est une série que vous consacrez à quoi ?
Tout mon travail est autour du végétal. C'est un peu mon étude de recherche depuis pas mal de temps. Je fais de la photo depuis que j'ai 16-17 ans. Pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de photos de rue. Depuis quelques années, en fait, en apprenant à me connaître, on va dire que l'univers végétal, les plantes, sont vraiment un environnement dans lequel j'ai besoin de puiser des choses et d'y extraire des éléments. Donc le médium que j'utilise, c'est la photographie, en particulier la photographie argentique. Donc c'est des procédés traditionnels qui sont liés à des étapes, on va dire, complètement dans la matière. Donc on n'est pas du tout dans du numérique. Donc là, on est dans de la chimie, dans de l'organique, dans de la réaction chimique. On est dans des choses qui se cristallisent au contact de la lumière. Donc on est vraiment dans quelque chose de vivant, dans mouvement. Et pour moi, c'est complètement ancré, on va dire, avec ma démarche et lié aussi par rapport à mon rapport au monde végétal.
Oui, la transformation chimique du végétal, et finalement,
voilà, c'est très lié. Pour moi, c'est très lié, parce que même ces étapes-là, il y a un aspect qu'on ne maîtrise pas, qui est de l'ordre de la physique, et qui est super intéressant, et de la chimie. Donc, et j'aime bien, j'ai toujours aimé, j'ai eu la chance de découvrir la photographie via l'argentique. J'avais 16 ans à Casa avec une photographe, Ingrid Pullard. Donc elle avait une chambre noire, du matériel. Puis moi, je shootais la pellicule constamment. Depuis, donc ça ne m'a pas quitté. C'est un médium qui me fascine, que j'aime beaucoup.
Et donc là, justement, comment vous faites ces effets ? Parce que pour décrire ça, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression qu'il y a une espèce de superposition de différentes photos. C'est
exactement,
ça
c'est de la double exposition. Mm-hmm. Donc en fait, il y a différentes techniques. Il faut savoir que par exemple, tous les outils existent dans Photoshop. Enfin, tous les noms, mais en fait, ils existaient dans un laboratoire noir et blanc.
Les fameux calques qu'on utilise.
Exactement. Ouais. Tout ce qui est nommé, en fait, dans un Photoshop, en fait, c'était des outils et des termes qu'on utilisait dans un laboratoire noir et blanc. Donc, en fait, tout le Photoshop était fait à l'époque manuellement. Là, en particulier, ce que je fais, c'est pas très élaboré. C'est un principe très simple, qui est celui de la double exposition. Donc, je le fais pendant la prise de vue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, je prends plusieurs photos.
Sur la même pellicule.
Sur la même pellicule. Donc en fait, c'est des entrelacements, c'est des rapports de lumière qui vont se superposer. Lorsqu'on photographie une image et une deuxième, il faut s'imaginer comment celles-ci vont s'associer. J'ai fait beaucoup d'associations de dessins où je faisais le corps et la plante. Donc je préparais mentalement un peu ce que je recherchais, puis je faisais cette mise en scène avec le modèle avec qui je travaillais.
Alors comment ça se passe aujourd'hui quand on est une jeune femme artiste au Maroc pour être exposée, faire parler de ses œuvres? Il faut forcément passer par des expositions internationales où il y a aujourd'hui un réseau qui vous permet de toucher de potentiels acheteurs.
Alors moi je ne cache pas que j'ai eu la chance de pouvoir montrer mon travail rapidement à des personnes qui ont tout de suite repéré mon travail. C'est une chance énorme, je le sais. Mais au Maroc, aujourd'hui, la scène artistique est en pleine expansion, une explosion. Moi, je suis vraiment hyper fière parce que depuis quelques années, j'ai l'occasion de rencontrer des artistes qui font un travail super intéressant. Je pense qu'au Maroc, on a vraiment aujourd'hui une scène et la possibilité de montrer son travail artistique.
Le travail des galeristes aussi a évolué. Vous avez l'impression qu'il y a plus de peut-être de d'expertise, d'exigence chez Galerie?
Moi, je suis architecte à la base de formation. J'étais architecte et puis j'ai décidé de consacrer à mon travail que depuis 3 ans. Soart Galerie, ma première galerie. Donc, j'ai eu une petite expérience avec une galerie ici à Paris, mais elle était très brève. Mais là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir vraiment collaborer avec une galerie qui me soutient, non seulement financièrement, mais moralement, qui m'encourage, qui croit en mon travail, qui prend des risques. Et ça, c'est génial.
Vous attendez quoi, là, de cette exposition à Paris? C'est prendre de nouveaux contacts, faire connaître votre travail, peut-être aussi à davantage à l'international, au niveau européen, peut-être?
Exactement. C'est un peu l'occasion de montrer son travail. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les galeries étrangères qui sont là, qui viennent, qui repèrent, qui voient. Et aussi, on a les médias. Enfin, c'est une très bonne scène. C'est une super opportunité de pouvoir faire voir son travail à l'international, oui, c'est sûr.
Vous avez un site internet?
Oui, oudacabage.com.
Et bien, justement, on va conseiller aux auditeurs d'aller voir votre site internet pour voir de visu le travail, parce qu'on a essayé de le décrire, mais bon, c'est pas facile de décrire un tableau, une photographie comme ça. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Écoutez, avec plaisir. Il y a mon Instagram aussi où je poste beaucoup de choses.
C'est important,
ouais.
Les réseaux sociaux.
Ouais, ouais.
Alors, Instagram, c'est
Ouda Cabage.
C'est parfait.
Voilà.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi, merci à vous.
Voilà, Ouda Cabage au micro d'Aurélien Devernois. C'est ainsi que se referme cette émission. Excellente journée. La semaine prochaine, Florence Blanc prend la relève. Je vous embrasse.